À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, à leur idée, c'est ce qu'ils pensaient du moins, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils de l'homme donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Vous avez sans doute reconnu le passage de Jean, chapitre 5, versets 2 à 47. Cette confrontation est fascinante à plusieurs points de vue. Les Juifs, lit-on au verset 39, sondaient les Écritures, parce qu'ils pensaient avoir en elles la vie éternelle. Or, comme Jésus le précisa, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je voudrais aujourd'hui développer ce thème. Nous aussi, nous sondons les Écritures pour avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Cette idée en soi n'est pas mauvaise, mais tout dépend de la manière dont nous les sondons, de notre attitude. Christ faisait allusion ici à ce que j'appellerais la sémantique du cœur. Définissons pour commencer le mot « sémantique ». La sémantique étudie les différents sens des mots et du langage. Un chrétien attache de l'importance aux mots, et c'est une bonne chose, car les paroles de l'Éternel sont les paroles de vie. Christ déclara un jour, à juste titre, à ceux qui l'écoutaient, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean chapitre 6, verset 63. Les Juifs qui confrontaient Jésus prenaient les Écritures au sérieux. Ils croyaient avoir en elles la vie éternelle, mais ils souffraient d'endurcissement spirituel. Et cet endurcissement était dû en partie au fait qu'ils ne reconnaissaient pas en Christ le Messie annoncé et leur Sauveur. Ils ne comprenaient pas qu'elles doivent être intériorisées, avec une certaine attitude, avec la sémantique du cœur. Je reviens assez souvent sur le sens générique des mots et sur le danger qu'il y a à se borner à accorder aux mots uniquement la définition du dictionnaire, qu'il s'agisse d'un dictionnaire français, grec ou hébreu, ou autre, sans tenir compte du contexte et de l'esprit de la lettre. Christ dut confronter ce problème bien des fois. Nous devons nous assurer que nous ne tombons pas dans ce piège, et c'est plus facile qu'on ne le pense. Christ s'affligea un jour du manque de substance dont les gens faisaient preuve. Leur religion était superficielle, comme la religion de bien des gens de nos jours est superficielle. Il se lamenta, disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, 8. Le mot « cœur » ici est un mot clé, je dirais même « la clé ». Comment nous assurer que nous intériorisons la sémantique du cœur en puisant dans les Écritures, que nous tirons le maximum de profit des mots que nous lisons, de sorte que nous nous abreuvons pleinement des paroles de vie de notre Père Céleste? Je vous propose aujourd'hui quatre clés, quatre principes clés. Et le premier est le suivant, frères et sœurs. Nous devons nous assurer que nous avons la meilleure version possible, une Bible le plus fidèle possible aux originaux. Les mots sont importants pour nous. Nous voulons savoir ce que Dieu a dit, et nous rapprocher le plus possible de ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Donc, la première des choses à faire, à nous assurer, c'est que nous avons la bonne version, une bonne version de la Bible. La Bible, une Bible le plus fidèle possible aux originaux. Il n'est pas rare d'entendre dire « Moi, je préfère une version moderne de la Bible. Une Bible en langage de tous les jours. Parce qu'ainsi, je comprends mieux. » Ben, le problème avec cette optique, c'est qu'on sacrifie l'exactitude du texte au profit de notre propre confort, et qu'on fait des compromis avec la vérité. Paul a écrit à Timothée que toute l'écriture est inspirée dans l'original grec. Et elle est inspirée, ça veut dire littéralement insufflée de Dieu, soufflée par Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous connaissons ce passage de Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Notez bien le mot « corriger ». Nous ne sommes donc pas supposés rechercher ce qui correspond à nos idées ou ce qui nous plaît, mais nous sommes là pour apprendre à nous conformer à la volonté divine, à partir d'une version de la Bible le plus fidèle possible au texte original. Humainement parlant, nous optons instinctivement pour ce qui requiert de notre part le moins d'efforts possible. Or, nous devons nous rappeler que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains chapitre 8, verset 7. Et telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, 12. Ce sont des versets que nous lisons souvent, n'est-ce pas? La plupart de nos versions modernes sont faciles à lire, certes, mais pas toujours fidèles et rarement vraiment fidèles au texte original, comme je l'expliquais dans l'un de mes messages. Certains mots ont été délibérément ôtés dans la plupart de nos versions modernes, y compris la version Second. Il est donc conseillé de consulter plusieurs versions, généralement plus fidèles, comme la version Martin, la version Osterwald, la Bible d'Olivetan, la Bible de Genève de 1669, la Bible de l'Épée et même la King James française, même si le style est quelquefois un peu archaïque et moins agréable à lire. L'Église de Dieu Association mondiale se fie sur le texte majoritaire, byzantin, dit texte reçu, soit la majorité des manuscrits grecs du Nouveau Testament, 80% d'entre eux. Et c'est la source la plus fiable pour le Nouveau Testament, car près de 80% de ces textes correspondent entre eux. Et s'il y a différence, ce sont des différences minimes, qui ne changent pas réellement la doctrine. Et ces manuscrits, il y en a au moins 6000. La Seconde du XXIe siècle a repris notamment le mot « enfer » qu'elle avait remplacé par « GN » dans les versions précédentes, comme celle de 1979. Et son premier verset, alors si on débute la Bible, son premier verset est de nouveau mal traduit. Elle reprend au commencement « Dieu créa le ciel ». Et la terre, au lieu de les cieux et la terre. Puis il y a le verset d'Apocalypse 22 et verset 14, qui se garde bien de parler des commandements, alors que le texte reçu, lui, dit, il est écrit, heureux ceux qui observent les commandements, au lieu de heureux ceux qui lavent leur robe. Qu'est-ce que ça veut dire, heureux ceux qui lavent leur robe? Je me gratte la tête quand je lis ce passage. Dans l'original, il est question de « heureux ceux qui observent les commandements ». Évidemment, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui veulent entendre parler des commandements. Et dans cette version Seconde du XXIe siècle, c'est probablement celle que nous achetons maintenant, c'est la plus récente, il y a souvent des mots « entre crochets ». Entre crochets. Il s'agit généralement de ce qui est dans le texte reçu et qui a été enlevé dans des versions antérieures de la Seconde. Et il est dit dans les premières pages de cette édition, dans la section expliquant les symboles, que ce qui est entre crochets, et je cite ce qui est écrit au début de cette nouvelle version, ce qui est entre crochets signale que le mot ou le passage ainsi encadré est absent de certains manuscrits jugés importants. Ces manuscrits jugés importants ne le sont généralement pas pour nous qui nous fions au texte reçu, dit Byzantin. Si vous avez cette version, soyons donc conscients, ou soyez donc conscients du fait que ce qui est mis entre crochets est en fait inspiré et fait partie de l'écriture. Il est bon de le savoir. Bon, nous sondons les écritures pensant avoir en elles le chemin de la vie éternelle. Nous aussi. Mais contrairement aux Juifs que Jésus confronta, nous savons que sans Christ, sans le repentir, sans la rémission de nos péchés, le baptême, la réception du Saint-Esprit par imposition des mains d'un serviteur de Dieu et une vie de sainteté, ces écritures d'elles-mêmes ne procurent pas la vie éternelle. Elles doivent être intériorisées avec la sémantique du cœur. Les mots sont donc importants pour nous, et nous avons le besoin d'une version fiable et fidèle de la parole divine, afin d'avoir ces paroles de vie dont Christ parlait. Frères et sœurs, connaissez-vous les passages dans votre Bible qui ont été mal traduits, ou dans lesquels on a ajouté ou supprimé certains mots? Ou par exemple, le mot « repentance » a été remplacé par « une autre attitude » Ou au lieu de « beaucoup d'appelés, mais peu d'élus », on lit « beaucoup sont invités, mais peu sont choisis », ce qui n'est pas assez fort, ce qui n'est pas aussi fort. Ou « condamné » a été remplacé par « jugé ». Il y a une différence entre « jugé » et « condamné ». Ou « la foi de Christ » a été remplacée par « la foi en Christ ». Grande différence à nouveau. La foi de Christ, sa foi à lui, au lieu de la foi en Christ, on croit en Christ, mais ce n'est pas la même chose. Ou patience, le mot patience a été remplacé par persévérance. Bon, ça se rapproche, mais ça n'est pas exactement la même chose. Ou la gloire qui va être révélée en nous a été remplacée par la gloire qui va être révélée pour vous, ou pour nous, plus exactement. C'est pas la même chose. Elle est révélée en nous, les vrais chrétiens. Où on a ôté par son sang, on a enlevé par son sang, quand il est question de notre rédemption grâce à Christ. Ces trois mots sont importants. La rédemption a été faite par son sang. Christ a dû verser son sang. On a ôté la mention saint devant les frères et sœurs. Il ne s'agit pas de n'importe quels frères et sœurs, il s'agit des saints frères et sœurs, des vrais chrétiens. Où on a ôté en parlant de Christ, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Où, à propos de la doctrine des Nicolaïtes, la mention « que je hais » a été ôtée. Où la mention « celui qui est vivant » à propos de l'agneau a été ôtée. L'agneau est vivant, il est mort, mais il est vivant. Important. Ou à propos des nations qui marcheront à la lumière de Christ, la mention « qui auront été sauvées » a été ôtée. Ce sont les nations qui auront été sauvées. Ça, c'est important. Pas n'importe quelle nation. Les nations qui auront été sauvées, toutes ne seront pas sauvées. Si nous accordons de l'importance aux mots que notre Père Céleste place dans sa parole, nous devons être conscients de ces lacunes dans nos versions modernes. Je n'ai cité ici qu'une quarantaine de mots qui diffèrent des originaux dans la seconde du XXIe siècle. Alors, la plupart des Bibles modernes comportent beaucoup d'autres modifications qui changent le sens des paroles des serviteurs de l'Éternel, des apôtres. Armons-nous donc, si possible, d'une bonne version française. Le deuxième principe que je tiens à évoquer dans ce message sur la sémantique du cœur est le suivant. Les mots sont des vecteurs de concepts, d'idées, de savoirs, qui doivent être pris dans leur contexte. Chaque mot revêt un sens différent de son sens générique quand il est placé dans une analogie ou une comparaison, par exemple. Ok, je répète. Les mots sont des vecteurs de concepts, d'idées, de savoirs, qui doivent être pris dans leur contexte. Chaque mot revêt un sens différent de son sens générique quand il est placé dans une analogie ou une comparaison, etc. Nous savons ce qu'est une porte, du pain, le levain, un chemin, un cep et des sarments, une brebis, un bouc, etc. Mais Christ, dans ses enseignements, leur a donné un sens plus profond que le sens générique qu'on trouve dans le dictionnaire pour les définitions. Et c'est là qu'intervient pour nous la nécessité de comprendre ces mots avec la sémantique du cœur, ces mots qui se trouvent dans la Bible. Troisièmement, nous devons tenir compte du sens que la Bible donne à certains mots. Je répète, nous devons tenir compte du sens que la Bible donne à certains mots. J'ai récemment donné un sermon sur les diverses formes de l'amour. En français comme en anglais, nous utilisons le mot « aimer » pour décrire plusieurs situations. On peut aimer les êtres humains, mais aussi les choses, comme du bon vin, le chocolat, etc. Aimer est un terme générique. Et l'amour de même, c'est la même chose, c'est de même. Il semble qu'il en soit de même dans le grec. Mais dans le grec, il y a plusieurs mots pour décrire l'amour. Dans l'Église, nous parlons relativement souvent de la forme d'amour que la Bible traduit par « charité », le mot grec « agapé », agapé, A-G-A-P-E, accent grave ou accent circonflexe. Et j'ai développé ce sujet avec nos frères et sœurs québécois. Ce sera donc, pour plusieurs d'entre eux, une révision, mais cela vaut la peine, car ce sera utile pour tous. Et ma question était la suivante. Est-il juste de dire que le mot « agapé » décrit toujours, dans la Bible, l'amour de Dieu et un amour pur et désintéressé? C'est ce que j'avais cru. Mais est-ce juste? Étudions comment la Bible utilise ce mot. À nouveau, ce qui est important pour nous, c'est de savoir comment Dieu utilise ce mot, parce que c'est lui qui a inspiré la parole divine. Alors, reportons-nous à Jean chapitre 13 et le verset 34. Jean chapitre 13 et le verset 34. Pour commencer. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimer ici est le mot agapao, le verbe agapao. À tous ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour dans le grec agapé les uns pour les autres. Reportons-nous à Jean chapitre 3 verset 16. Nous étions dans Jean quelques pages auparavant. Jean chapitre 3 et le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. A tant aimé, agapao, agapao en grec. Ok. Toujours dans Jean, maintenant revenons, Jean chapitre 15, verset 9. Jean chapitre 15 et le verset 9. À nouveau, ce qui compte pour nous, c'est de voir comment Dieu a utilisé ces mots. Bon, s'il y a des philosophes grecs qui ont utilisé ces mots autrement, c'est leur affaire. Mais nous voulons savoir comment et dans quel contexte Dieu a utilisé ces mots. C'est la Bible qui est notre encre, en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors, Jean chapitre 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, agapao, je vous ai aussi aimé, agapao. Demeurez dans mon amour, agapé. » Jean chapitre 17, verset 23, deux pages plus loin, chapitre 17, verset 23. Jésus dit au Père, « Tu les as aimés, les disciples. » Et aimer ici, à nouveau, est agapao, comme tu m'as aimé, agapao. Nous savons également que le chapitre de l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, décrit l'amour ou la charité en utilisant le mot agapé. Bon, de prime abord, il semblerait donc que l'amour agapé décrive l'amour pur et désintéressé, souvent associé à l'amour de Dieu. Mais est-ce toujours le cas? Je vous invite maintenant à vous reporter à plusieurs passages où le verbe « aimer » dans l'original grec est le mot « agapao ». Mais où ce mot, contrairement au passage que nous venons de lire, est attribué à un être humain qui aime quelque chose de mal, donc un amour contraire à la volonté divine et que Christ condamne. Reportons-nous à Jean chapitre 12 et le verset 43. Nous étions dans Jean, restons dans Jean. Jean chapitre 12 et le verset 43 maintenant. Jean 12, 43, « Car ils aimèrent, agapao, la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Ils aimèrent la gloire, voilà, ils aimaient quelque chose qui n'était pas divin, qui n'était pas la bonne chose à aimer. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc on voit que c'est un passage où le mot agapao, ou agapé, est utilisé pour décrire quelque chose qui n'est pas divin, n'est-ce pas? Luc chapitre 6, verset 32. Luc 6 et le verset 32. Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Bon, il est question des pêcheurs qui aiment ceux qui les aiment. Il n'est pas question d'amour divin ici, n'est-ce pas? Et ici, à nouveau, il est question de agapao en grec, dans le grec. Luc chapitre 11, verset 43, nous sommes dans Luc, quelques chapitres plus loin, Luc chapitre 11, verset 43. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez agapao, vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. À nouveau, il est question, cela décrit ici, ils aiment quelque chose qui n'est pas juste. Donc, il n'est pas question de l'amour divin ici. 2 Pierre chapitre 2, verset 15. 2 Pierre chapitre 2, verset 15. 2 Pierre 2, 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bézor, qui aima agapao, le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Bon, il est question de Balaam ici, qui aima le salaire de l'iniquité. Il n'est pas question d'aimer quelque chose comme Dieu aime, n'est-ce pas? Il aima le salaire de l'iniquité. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2 et le verset 15. N'aimez point, agapao, pour le verbe aimer ici, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, agapao à nouveau, l'amour agapé du Père n'est point en lui. Jean chapitre 3, verset 19. Jean. L'évangile de Jean, cette fois-ci, Jean chapitre 3 et le verset 19. Jean chapitre 3, verset 19. Les hommes ont aimé les ténèbres, ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. À nouveau, on voit ici, agapao, ils ont aimé agapao les ténèbres. Il ne s'agit pas de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de la bonne sorte d'amour. Matthieu 24, verset 12. Matthieu chapitre 24 et le verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À nouveau, c'est placé dans un contexte plutôt négatif. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, le verbe agapao, traduit en français par aimer, de la même famille que le substantif agapé, traduit en français par amour, nous montre également qu'il peut s'agir aussi bien d'aimer quelque chose de bien, en étant inspiré par Dieu, que d'aimer quelque chose de mal, sous l'inspiration divine. sous l'inspiration de Satan, pardon. Oh, quelle différence. Nous devons tenir compte du sens que la Bible donne à certains mots, même si les auteurs grecs ont utilisé ces mêmes mots différemment. En français, le verbe « affectionner », bien que le verbe « affectionner » soit différent du verbe « aimer », cela ne signifie pas obligatoirement que le verbe « affectionner » décrive un amour uniquement éprouvé par l'être humain et que le verbe « aimer » décrive uniquement un sentiment divin ou vice-versa. Cela, nous le savons. Un homme peut « aimer », entre guillemets, la femme de son prochain, au point de commettre avec elle l'adultère et d'éprouver de l'affection pour elle. Et en pareil cas, son amour pour cette femme ne vient pas de Dieu, nous le savons. Il y a un autre mot grec traduit généralement en français par « amour » ou « aimer ». Il s'agit du mot « philia », « philia », « p-h-i-l-i-a » ou du verbe « philéo ». « Philia »,« philéo », c'est la même chose. Vous avez le verbe et vous avez le nom. Et dans le grec, le mot « philéo » signifie généralement « être un ami ». Mais il y a des variantes. L'un de ses dérivés, « philadelphos »,« philadelphos », décrit l'amour que l'on a pour les frères et sœurs en la foi. Et le mot « philadelphia »,« philadelphia », décrit l'amour des frères et sœurs en la foi. Dans le grec, le mot pour « ami » est « philos », p-h-i-l-o-s, et « l'amitié », l'amitié est philia. Bon, il y a une différence entre amour et amitié, n'est-ce pas? Nous le savons. Dans un premier temps, on voit que ce verbe aimer, philéo, peut être attribué à un être humain qui aime quelque chose de mal, donc contraire à la voie divine, et que Jésus condamne. Prenons un exemple, Matthieu chapitre 6, verset 5. Matthieu chapitre 6 et le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Matthieu 23, 6, Matthieu chapitre 23 et le verset 6. Matthieu chapitre 23 et... Oui, voyez donc toutes les variations qu'il y a. Il y a des nuances dans tout cela, n'est-ce pas? Alors en français, quand on dit « j'aime », on sait de quoi on veut parler, mais ça couvre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Comme je disais tout à l'heure, on peut aimer quelqu'un, mais on peut aimer le chocolat, on peut aimer la crème glacée, on peut aimer une voiture, etc. On sait ce que ça veut dire, on sait ce qu'on veut dire quand on utilise le verbe « aimer ». Dans le grec, il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs mots pour décrire des choses différentes. Matthieu 23, verset 6, « Ils aiment, philéo, la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. » Philéo à nouveau. Luc 20, verset 46, Luc 20 et le verset 46. « Gardez-vous des scribes qui aiment, philéo, à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, et qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. » Philéo. Alors là, on voit qu'à nouveau, philéo peut être utilisé pour une bonne chose ou une mauvaise. Bon, on aime quelque chose de bien ou on aime quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? C'est ça qui compte, c'est important. Comment est-ce que la Bible utilise ces mots? C'est ça qui compte pour nous, n'est-ce pas? Jean chapitre 15 et le verset 19. Jean chapitre 15 et le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde aimerait, philéo, ce qui est à lui. L'amour du monde, c'est l'amour du monde, c'est pas un amour divin, ici à nouveau. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Apocalypse 22 et le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, aime philéo. Donc on voit ici à nouveau que le mot philéo parle d'aimer quelque chose qui est mal, aimer et pratiquer le mensonge. Hein. Ce n'est pas quelque chose de positif, mais c'est quelque chose de négatif. Et dans un deuxième temps, on voit que le verbe aimer, philéo, peut aussi s'appliquer à Dieu qu'à un être humain qui aime quelque chose de bien, donc un amour qui est conforme à la voie divine. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha, qui n'aime pas le Seigneur, philéo. Là, il est question d'aimer Dieu, donc le Seigneur. Donc, c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Il faut aimer le Seigneur. Mais si quelqu'un n'aime pas le Seigneur de la bonne façon, qu'il soit anathème, n'est-ce pas? Tite chapitre 3, verset 15. Tite chapitre 3 et le verset 15. On voit donc que le mot philéo peut traduire un amour qui est une bonne chose, un amour qui est positif et qui s'applique aussi bien à Dieu qu'aux êtres humains, n'est-ce pas? Alors, Tite chapitre 3 et le verset 15. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Ceux qui nous aiment, philéo, dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Question de la bonne sorte d'amour, n'est-ce pas? Jean chapitre 16, verset 27. Jean chapitre 16 et le verset 27. Car le Père lui-même vous aime, philéo, parce que vous m'avez, philéo, aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. À nouveau, il est question d'un amour très positif ici. Hein. Vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Hein. Des questions de l'amour de Dieu dans ce cas. Jean chapitre 5, verset 20. Nous étions dans Jean, quelques pages en arrière. Jean chapitre 5 et le verset 20. Le Père aime le Fils. Le Père aime Philéo. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Matthieu chapitre 10, verset 37. Matthieu chapitre 10 et le verset 37. Je sais, je vais un peu vite, mais vous pouvez toujours noter les passages. Matthieu chapitre 10 et le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Philéo, pour le verbe aimer ici, il s'agit du verbe philéo. Okay. Mon quatrième point dans ce message aujourd'hui est le suivant. Un mot grec ou hébreu ne suffit pas pour nous indiquer tout ce que nous devons savoir sur un sujet donné. Ce n'est pas une panacée. Un mot en soi n'est pas une panacée. Cela nous aide, mais il faut aller plus loin. Quand on étudie un sujet comme l'amour, il importe de se reporter à des passages qui décrivent ce que la Bible entend par ce sujet. Car le sens des mots change. Et les gens n'ont pas toujours la même idée en tête quand ils se servent d'un mot. Hein? Le mot aimer est un mot fascinant finalement. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », oui mais dans quelle mesure? Vous savez, c'est un mot mais ça ne dit pas tout, n'est-ce pas? Je t'aime. Je t'aime beaucoup ou je t'aime simplement je t'aime? Ah, le ton de la voix, il fait probablement pour quelque chose, n'est-ce pas? Ça donne probablement des précisions, mais vous voyez, chaque mot peut être utilisé dans un contexte plus ou moins fort. Quand j'étais jeune, il y avait le mot « gay ». Gay, à cette époque-là, cela voulait dire « content »,« heureux ». À présent, cela décrit bien autre chose, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne dit plus « oh, je suis gay aujourd'hui ». Non, en général, on ne dit pas cela. On ne dit plus cela. Le mot « gay » a bien changé de sens, n'est-ce pas? Dans le grec, le mot pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, peut être traduit par foi, par assurance, foi, la foi, hein, assurance, par croyance ou fidélité. Dans les versions Martin et Osterwald, Dans Galates chapitre 5, verset 22, le mot pistis, le mot grec pistis, est traduit par fidélité, alors que dans la version seconde, il est traduit par foi. Hein? Les mots en eux-mêmes pris isolément ne suffisent pas à établir toute la vérité sur un sujet donné. C'est pour cela que nous avons besoin de pratiquer la sémantique du cœur. Et j'espère que vous me suivez quand je dis cela. Sinon, demandez à Dieu de vous ouvrir l'esprit, parce que c'est important. Nous avons besoin de travailler sur notre profonde conviction. Et ne pas faire les choses simplement pour « Ah, parce qu'il faut que je le fasse, sinon, ah, ça va me causer des problèmes. » Non, nous devons faire tout du cœur, avec le cœur. Le christianisme est une religion du cœur. C'est un mode de vie et tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec le cœur en étant absolument convaincus que c'est la bonne chose. C'est très important, frères et sœurs. Nous devons examiner des passages où un sujet donné est développé pour appréhender la pensée de notre Dieu. Et cela ne se limite jamais uniquement à la définition d'un mot. Revenons à l'exemple de l'amour. Puisque dans le grec, il existe plusieurs mots pour décrire l'amour, nous devons étudier comment ce dernier est exprimé dans plusieurs situations dans la Bible. Dans le grec, qui est traduit en français par « amour », il peut être question de Eros, Eros dont nous avons le terme érotique. L'érotisme n'est pas nécessairement une mauvaise chose dans le contexte du couple d'un homme et d'une femme qui s'aiment, d'un homme et une femme mariés, il y a un certain érotisme. C'est l'attraction physique, l'attraction sexuelle. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ça peut être mauvais. Tout dépend du contexte dans lequel il est question de cet Eros, n'est-ce pas? Vous avez Pornéa qui est à éliminer de toute façon. Pornéa, ça vient de prostitution dans le grec. Alors c'est toujours quelque chose de négatif, hein, de convoitise. Vous avez Storgé. Storgé, c'est à nouveau un mot qui est traduit lui aussi par amour et qui en général décrit l'amour familial ou filial. Après, vous avez Philéo et Agapé que nous venons de voir. Philéo qui a tendance à aller plutôt vers l'amitié, et puis Agapé a tendance en général, à nouveau en général, à aller davantage vers un amour sacrificiel, un amour pur et un amour désintéressé. Mais à nouveau, le contexte est important. Ces mots changent en fonction du contexte. Le mot agapé ne suffit donc pas à décrire l'amour divin. Pour savoir ce que c'est l'amour divin, nous devons nous reporter à des passages comme 1 Corinthiens 13 pour savoir comment cet amour est exprimé. Comment il est exprimé. Ce n'est pas juste un mot. Reportons-nous à 1 Corinthiens chapitre 13. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire ici. Vous avez un mot, agapé, le mot agapé pour utiliser dans tout ce chapitre ici pour décrire la charité. Mais comme dans le grec, le mot varie de sens un peu, hein, il varie, Dieu s'est assuré que nous puissions savoir ce qu'il entendait par le vrai amour. Et lorsqu'il a inspiré Paul d'écrire 1 Corinthiens 13, il a dit ceci, « Quand je parlerai, 1 Corinthiens 13, verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, agapé, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, bang, 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 hein, quelque chose qui fait du bruit, mais que franchement c'est juste du bruit. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit, mais qui n'accomplissent pas grand chose. C'est une image assez intéressante, celui d'une cymbale. Une cymbale, c'est pas réellement un son qui est très agréable. Hein. Bon, dans un orchestre, ça va, on entend un peu la cymbale, mais alors, pensez à un gong aussi, ça c'est pas tellement aussi... C'est pas tellement agréable comme son, n'est-ce pas? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qu'est-ce que Dieu fait par la bouche de Paul ici? Il nous montre ce qu'il entend par amour. Il nous développe ce qu'il entend par cette agapé dont il parle ici, de cette charité. Donc, le secret n'est pas dans un mot, il n'est pas dans la définition du dictionnaire et grec, hein, ou hébreu pour l'Ancien Testament, d'un mot, il est dans des passages qui nous montrent ce que c'est l'amour. qui va dans les détails, qui amplifie, n'est-ce pas? Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, en quelque sorte, si je deviens un martyr, mais je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Dieu nous montre ce qu'il entend ici par cet amour. Si je n'ai pas cet amour, ça ne sert à rien. Et là, ça débute, franchement, là il va dans le cœur du sujet, à partir du verset 4, l'amour est patient. L'amour est patient. Là, il commence à décrire ce qu'il entend par cet agapé. Il est plein de bonté. Alors tout cela, ça fait partie de l'amour. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Et il développe ici, pour nous, ce qu'est l'amour, ce qu'il entend par cet amour. C'est pour cela que nous avons besoin d'être des grammairiens de la sémantique du cœur, de la sémantique divine, de savoir comment Dieu utilise ces mots. C'est cela qui compte pour nous. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Vous voyez, là c'est toute une liste de choses à faire ou à ne pas faire qui nous montre ce que c'est l'amour. Il excuse tout. Est-ce que nous excusons tout facilement? Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Et j'ai commencé à être un grammairien de la sémantique du cœur, de la sémantique divine. En croissant, en devenant un vrai chrétien. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Rappelez-vous que les miroirs, à cette époque-là, la raison pour laquelle Paul dit cela ici, c'est que les miroirs, à cette époque-là, n'étaient pas aussi beaux que ceux que nous avons aujourd'hui. Les miroirs d'aujourd'hui, vous vous regardez dedans et vous vous voyez très bien. À l'époque où Paul a écrit cela, c'était du métal poli et il était mal poli, si je puis m'exprimer ainsi, il était mal poli, il n'était pas aussi poli que où le reflet que vous aviez était réellement très clair, très net, non, c'était un peu flou. Donc c'est pour cela qu'il dit, d'une manière obscure, « Mais alors nous verrons face à face, comme aujourd'hui je connais en partie, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et ce n'est ici que, en somme, la partie cachée de l'iceberg, car la vie de Christ et ce qu'il a fait, ce qui est décrit dans les évangiles, nous montre comment Christ faisait preuve d'amour. Comment il faisait preuve d'amour, comment il exprimait cet amour, ce que cet amour produisait. Et bien des passages dans le restant du Nouveau Testament montrent ce qu'est l'amour à l'action. Donc il ne s'agit pas de regarder juste un mot, que ce soit agapé ou philéo, cela ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est regarder les preuves d'amour, les descriptions de l'amour. Parce que là, à ce moment-là, nous savons exactement de quoi Dieu voulait parler. Il faut puiser ces perles, devenir des grammairiens de la sémantique divine, de la sémantique du cœur. Ce qui manquait à l'ancien Israël, c'était justement cette sémantique du cœur dont je vous parle aujourd'hui. En cette ère moderne de l'Église, où l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée cohabitent, il importe que nous puissions puiser, en quelque sorte, dans les paroles de vie qui nous sont données, toutes les perles spirituelles qui s'y trouvent, pas juste des mots, mais des concepts, des idées, une manière de vivre, la pensée de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Je relisais dernièrement le Pentateuque et j'ai été de nouveau frappé par l'exemple de nos ancêtres. Je pense qu'à chaque fois que nous lisons ces passages, nous sommes frappés par leur endurcissement, n'est-ce pas? Mais je me suis dit qu'en fait, l'homme n'a pas changé. Bon, j'espère que nous autres chrétiens nous avons changé, mais l'homme, lui, n'a pas changé. La nature humaine est toujours la même. Je lisais Deutéronome 26 et le verset 16. Deutéronome 26, verset 16. Nous pouvons nous y reporter. Deutéronome 26 et le verset 16 notamment. Je lisais tous ces passages, mais celui-là parmi tant d'autres. Et là, il est question de cette sémantique du cœur dont je veux parler aujourd'hui. Alors, cela m'a frappé. Deutéronome chapitre 26 et le verset 16. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Le cœur est important, il faut que le cœur soit impliqué. Si notre cœur n'est pas impliqué, cela ne va nulle part. Cela ne donnera pas de résultat. Nous devons être, comme je le dis souvent, nous devons être d'accord avec Dieu à 100%, pas 99%, 100%. Bon, c'est un processus, ça prend toute une vie finalement d'en arriver là, mais c'est notre objectif. Notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ veut que nous soyons totalement un avec eux. Ils utilisent cette expression à plusieurs reprises dans la Bible. Le Père et le Fils sont un, mais ils nous disent aussi qu'ils veulent que nous soyons un comme eux sont un. Jean parle de cela. Il est question de cela et d'être d'accord avec lui, de comprendre ce que Dieu entend par ses mots, par ses paroles de vie. Être des grammairiens de la sémantique divine, de la sémantique du cœur. Dans Deutéronome, alors 26, verset 16, de toute ton âme. Dans Deutéronome 27, les Lévites devaient prononcer un certain nombre de phrases et le peuple devait répondre par oui, un oui affirmatif, un amen. Deutéronome 27, la page suivante, Deutéronome 27, verset 15. Deutéronome 27, verset 15, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra et dira « Amen ». Amen en d'autres termes, « D'accord, nous sommes d'accord ». Et pourtant, ils ont fait exactement le contraire. C'est ce qu'ils ont fait, le contraire. Oh, peut-être un peu de temps, Ils ont fait ce que Dieu avait dit, mais cela n'a pas duré longtemps, n'est-ce pas, quand on regarde l'histoire d'Israël. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira « Amen ». Oui, nous sommes d'accord. Jusqu'à un certain point, n'est-ce pas. Maudit celui qui déplace les bornes de son prochain, et le peuple dira « Amen ». Nous sommes d'accord. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira « Nous sommes d'accord, amen ». Maudit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira « Amen ». Nous sommes d'accord. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira « Absolument d'accord, nous sommes d'accord ». L'histoire prouvait le contraire, et notre époque prouve le contraire aussi. Pas d'accord. L'humanité aujourd'hui n'est pas d'accord, parce qu'elle ne pratique pas cette sémantique du cœur, parce qu'elle ne comprend rien de ce que Dieu dit. Mais vous et moi, nous sommes dans une autre situation. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons agir comme des enfants de Dieu. Vous pouvez lire le restant ici de ce qui était entendu par cela. Bon, si seulement ils avaient eu le cœur à être des grammairiens de la sémantique du cœur. Mais ils avaient le cou raide. Et l'humanité à présent ne fait guère mieux, et même pire. L'histoire des Israélites est aussi notre histoire. La nature humaine n'a pas changé. Espérons que nous nous séparons du monde. Que nous sommes ce peuple à part qu'il souhaitait faire d'Israël. Le problème avec Israël, c'est que le cœur n'y était pas. Le cœur n'y était pas. Lisons maintenant Deutéronome 31, les versets 24 à 30. Deutéronome 31. Nous étions dans Deutéronome. Deutéronome 31, verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort ? Moïse savait très bien ce qu'ils allaient faire. Il se doutait de ce qu'ils allaient faire. Il savait que cela ne prendrait pas longtemps avant qu'ils sombrent à nouveau dans la décadence. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Ce cantique, c'était l'Éternel lui-même qui l'avait composé, et ce cantique devait servir de témoignage. L'Éternel avertit son peuple comme il nous avertit aujourd'hui. J'ai trouvé ce cantique fascinant, il contient des perles de sagesse qu'en grammairien de la sémantique du cœur, nous devons nous procurer. Lisons-le chez nous après que vous aurez entendu ce sermon aujourd'hui, parce que c'est un cantique assez long et je ne tiens pas à le lire maintenant, mais je vous donne un devoir ou des devoirs. C'est le sabbat, lisez ce cantique de l'Éternel. Il est question de Deutéronome chapitre 32 et les versets 1 à 43. Je ne vais pas le lire pour vous, lisez-le. Lisez-le aujourd'hui et méditez ce que vous y trouverez. Et essayez de lire ce que vous lisez en étant des grammairiens de la sémantique du cœur, de la sémantique divine. Parce que c'est cela que nous voulons faire, c'est cela que nous recherchons. Pour être des grammairiens de la sémantique divine, de celle du cœur, nous devons nous souvenir de ces quatre principes développés aujourd'hui. Premièrement, nous devons nous assurer que nous avons la meilleure version possible de la Bible, une Bible le plus possible fidèle aux originaux. C'est important, c'est notre outil de travail, notre outil de formation, c'est important. Deuxièmement, comme je vous le disais, les mots sont des vecteurs de concepts, d'idées, de savoirs qui doivent être pris dans leur contexte. Chaque mot revêt un sens différent de son sens générique quand il est placé dans une analogie, ce qui est souvent le cas dans la Bible. Souvent, les choses sont décrites dans la Bible de façon imagée. Ce sont des images. Christ était extraordinaire avec ça. Il utilisait toutes sortes d'images. Nous devons, troisièmement, tenir compte du sens que la Bible donne à certains mots. Que la Bible donne à certains mots. Et quatrièmement, un mot grec ou hébreu ou autre ne suffit pas pour nous indiquer ce que nous devons savoir sur un sujet donné. Nous devons regarder des exemples pour des exemples qui développent ce thème. Nous avons parlé de l'amour, et il y a toutes sortes de passages, vous lisez tout le Nouveau Testament, c'est plein de passages où il est question de l'amour qui est développé, où Dieu nous dit comment aimer, n'est-ce pas? Je vous souhaite à tous de devenir des grammairiens de la sémantique divine, de la sémantique spirituelle, de celle de l'Éternel et de celle du cœur. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous dis bon courage, et je vous dis au revoir, et à bientôt.